Chapitre 96. Juna court en silence le long du mur sombre, arrive dans une nouvelle pièce, pointe son arme devant lui. Mais il est aveuglé. Il a juste le temps d'apercevoir le corps de Mara avant qu'elle ne soit de nouveau engloutie par l'obscurité. C'est allé trop vite. Il n'a pas eu le temps de tirer. Il continue d'avancer. Le froid est oppressant. Une torche est posée sur une chaise, le faisceau de lumière braqué sur lui. Sur le sol, il y a des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau et une cuisine d'appoint recouverte de toiles d'araignée. Il pénètre dans un couloir entièrement noir. Le bruit des pas de Mara lui parvient à nouveau, puis s'estompe. On dirait qu'elle disparaît dans les interstices sous le plafond. Il atteint une nouvelle porte, tâtonne pour trouver la poignée et l'ouvre d'un coup de pied. Yurek est celui qui a détruit Mara Makarov, mais c'est aussi lui qui l'a créée. C'est de lui qu'elle a appris le pragmatisme. En s'imprégnant des éléments de l'enquête, elle a compris à quoi ressemblerait sa vengeance. Maître Fauster lui a ensuite enseigné les aspects pratiques, comment en tuer et comment ne pas laisser de traces. Mais Yurek reste son mentor et elle son adepte. Comme lui, ses énigmes et son mode de communication avec la police n'ont rien de narcissique, mais servent toujours un objectif. Tout ce qu'elle a laissé derrière elle, même ce qui semblait involontaire, était une façon de manipuler les autres et de les orienter dans la direction qu'elle avait choisie. Juna pénètre dans une petite pièce faiblement éclairée par une lampe en forme d'amanite tumouche. Une lumière rouge se répand sur le sol et les murs. Il tend l'oreille. Entre, sécurise le côté gauche et pointe aussitôt son arme vers la droite. Une porte blindée est entrouverte. Mara se glisse dans l'entrebâillement. Il se précipite à sa poursuite mais s'arrête sur le seuil. Il entend ses pas rapides s'éloigner. Puis un bruit sec et métallique sur le sol. Il pousse la lourde porte et la fait basculer silencieusement sur ses gonds. L'acier terne est éclairé par une faible lueur venant de l'intérieur. Il comprend qu'il se trouve exactement à la pointe du M, là où s'achève le plan de Mara. Juna entre et balaie la pièce avec le canon de son arme. Il n'y a personne. Mara a déjà atteint la pièce suivante. Une lumière, à peine perceptible, émane d'une lampe posée sur le sol à 5 mètres de là. Il se dirige vers une autre porte en acier, de l'autre côté de la pièce sombre, et s'arrête. Il a d'abord du mal à comprendre ce qu'il voit. Une lanterne est posée sur une pile de crânes au centre d'une pièce caverneuse. La flamme est en train de s'épuiser, mais la faible lueur forme un cercle jaune pâle qui révèle des centaines d'os appartenant à 8 squelettes étalés au sol. Ils sont disposés de manière symétrique. Chaque corps part du tas de crânes et s'étire comme les rayons d'une roue. La mâchoire inférieure est suivie d'une série de vertèbres cervicales, de clavicules et d'omoplates. L'ensemble a l'apparence d'un flocon de neige dont les extrémités extérieures sont formées d'un tibia, un pied et des orteils. Juna marche prudemment entre les fragments de squelettes, l'arme pointée sur la porte. Il touche accidentellement un fémur qui vient cogner contre l'os d'une hanche. Il entend un frottement métallique et tourne la tête vers la poignée de la porte devant lui. Après avoir été libéré d'Itereux, Mara a réussi à se procurer à la NOA une grande partie des documents confidentiels concernant Yurek, et quand elle a finalement retrouvé l'espace souterrain sous l'autoroute, toute sa famille était déjà morte. Mais 2 ans plus tôt, lorsque par l'intermédiaire du psychologue, elle avait approché Saga, celle-ci avait à sa disposition exactement les mêmes éléments. Elle aurait pu, elle aussi, trouver le chemin jusqu'ici si elle avait essayé. À une différence près, la famille de Mara aurait encore été en vie. À ses yeux, Saga est responsable de leur décès. 8 personnes sont mortes parce que pendant que Mara était enfermée à Itereux, Saga n'a pas agi comme elle l'aurait dû. Mara a donc commencé à assassiner des personnes de l'entourage de Saga, celles avec lesquelles elle était en conflit afin de la discréditer peu à peu. Elle a placé des indices et son ADN sur les lieux des crimes, des produits chimiques sur sa moto et du crin de cheval dans son sac à dos. Tout ce réseau complexe de pièges a été conçu pour aboutir à cet instant précis dans le réseau souterrain. Le plan était que Saga soit tuée par Juna ou arrêtée et condamnée pour la série de meurtres. La lanterne posée sur la pile de crâne perd encore de sa vitalité, et le cercle de lumière éclaire les eaux d'un jaune de plus en plus orangé. C'est la 9e pièce, et il s'agit sans aucun doute d'une tombe. Mara a rassemblé ici les 8 squelettes de sa famille. Juna songe qu'il doit sortir sa lampe de poche avant que l'obscurité ne soit complète. Il pointe toujours son arme sur la porte face à lui. La lumière rouge de la lampe, à la forme d'amanite tumouche, prend le relais lorsque celle de la lanterne perd de sa force. L'ombre de Juna s'étend sur la porte en acier. De l'eau s'écoule d'un tuyau rouillé. Suit un chemin entre des petits monticules de calcaire jusqu'à un siphon au sol. Juna fait un pas de côté pour éviter de marcher sur un sternum et des côtes ayant appartenu à un enfant. Son ombre s'éloigne du mur. Il devine une toile d'araignée scintillante entre la poignée et le cadre de la porte en acier. Soudain, celle-ci commence à se refermer dans un grincement. Une décharge d'adrénaline glacée lui traverse le corps. Il se retourne et se précipite vers la porte, brisant des os sous ses pas. Le temps s'arrête. L'instant est immobile, lourd et silencieux. Juna se jette en avant et introduit son arme dans l'autre bâillement juste au moment où le battant se referme avec fracas. Le canon est écrasé. Des pièces métalliques tombent au sol, mais la porte n'est pas verrouillée. Il se relève rapidement. Sa tête le lance. Il s'est cogné les coudes et du sang s'écoule de son genou droit. Il pousse la porte. Les restes de son Colt combat tombent avec fracas sur le sol en béton. Mara l'attend et pointe sur lui son Makarov rouge. Ses yeux sont grands ouverts. Son visage est sale et elle respire rapidement par la bouche. Les muscles de ses bras minces sont tendus et recouverts de sang. Mara, c'est fini maintenant, dit-il en levant les mains. Il marche lentement vers elle, et elle recule de quelques pas, le pistolet pointé droit sur la poitrine de Juna. « J'ai vu la dernière figurine, » dit-il en s'approchant encore d'elle. Ses yeux papillonnent lorsqu'elle retourne l'arme contre elle et met le canon dans sa bouche. « Attends, il faut que tu m'écoutes. C'est Yurek qui vous a fait ça à toi et à ta famille. » « Ce n'est pas ta faute, tu comprends ?» la raisonne Juna en tendant les mains. Les yeux de Mara se remplissent de larmes et le pistolet tremble contre ses dents. Yurek a empoisonné tous ceux qui l'ont approché. Il est entré dans leur cerveau et il y est resté, longtemps après sa mort. Il aspirait l'âme des gens et il ne laissait que du vide. Le bout de son doigt posé sur la détente devient blanc. Ne fais pas ça, Mara. Je n'ai jamais raconté à personne les dernières paroles que Yurek a prononcées avant de mourir, dit Juna, en observant la lueur d'intérêt dans les yeux de Mara. J'aurais pu l'arrêter. Mais j'ai choisi de le tuer. Et quand il a lu dans mes yeux ce qui allait se passer, il a murmuré quelque chose que j'entends tous les jours depuis dans ma tête. Tu veux savoir ce qu'il m'a... Dans un même geste, Juna saisit l'avant-bras droit de la jeune femme et lui assène un coup de l'autre main. Il lui arrache ensuite le canon de la bouche et la plaque contre le mur. De la salive s'écoule sur son menton. Il la tire en arrière par le bras, la déséquilibre et lui donne un coup de pied dans les genoux. Ses cheveux volent devant son visage lorsqu'elle s'écroule. Lorsque son épaule heurte le sol et se déboîte, Mara ne fait que halter, là où elle devrait hurler de douleur. Juna retire l'arme de sa main et la range rapidement dans son holster, puis il retourne Mara sur le ventre, lui attache les bras dans le dos avec des serre-câbles et la plaque de nouveau contre le mur. Quelques secondes avant de mourir, Yurek m'a regardé dans les yeux et il m'a murmuré « Maintenant, Nous échangeons nos âmes. Tu tombes. Et je reste. Mara gémit lorsqu'une vague de douleur la submerge. Du sang s'écoule de ses lèvres. Et elle le fixe de ses yeux sombres. Il savait ce qu'il faisait. Il voulait me dire que je serais transformé si je l'exécutais. Il n'avait pas peur de mourir. Tout ce qu'il voulait, c'était me faire croire que j'étais devenu comme lui. Et ses paroles m'ont hanté. M'ont fait douter de qui je suis. Mais si j'avais été comme lui, uniquement relié à mon propre ordre obscur, je t'aurais déjà tué. Juna sort l'arme de Mara de son étui, éjecte la dernière balle blanche et pose l'arme dans sa main ouverte.